Merci beaucoup pour votre accueil chaleureux. Ouais, il y a plus de monde là ce soir, super. Bienvenue à tous. Donc on parle de la sacrificature depuis ce matin et on a déjà dit beaucoup de choses. Et ce soir, en fin de compte, je voudrais vous parler, pour terminer, du service à l'autel. Les sacrificateurs servent à l'autel. David, dans un des psaumes, dit « Tes autels, ô Éternel !» Point d'exclamation. Étonnant, hein ? Il est ravi par les autels de Dieu. L'autel, c'est le lieu de la rencontre avec Dieu. Et l'autel, c'est central dans le service des sacrificateurs de l'Ancienne Alliance. Et il y avait dans le tabernacle de Moïse trois autels. Et on va les regarder ensemble et voir à quoi ils peuvent correspondre pour nous dans la Nouvelle Alliance. On fait encore un comparatif entre les deux. Et ces trois autels étaient situés dans les trois parties du tabernacle. Vous vous rappelez, le tabernacle était composé d'un parvis, d'un lieu saint et d'un lieu très saint. C'est ce qu'on a appris à l'école du dimanche, donc on s'en rappelle tous plus ou moins. Et il y avait dans chaque partie de ce tabernacle un autel. Dans le parvis, il y a ce qu'on appelle l'autel d'airain. C'était le grand autel des sacrifices, celui qui était le plus visible des trois, bien sûr, puisqu'il était dans le parvis et qu'il était très important. Il y avait dans le lieu saint l'autel des parfums, qui se trouvait juste devant le voile, sur lequel on faisait brûler des parfums perpétuellement devant Dieu. Un parfum qui était composé avec une recette bien spéciale qui devait brûler uniquement devant Dieu. On n'avait pas le droit de confectionner ce parfum pour les hommes, pour nous-mêmes ou pour autre chose, surtout pas pour en faire du commerce. Mais c'était le parfum réservé à l'Éternel. Et il y a la recette de ce parfum dans la parole de Dieu. Et le troisième autel, lui, se trouve en fin de compte dans la dernière pièce, la pièce secrète, le lieu très saint. Derrière le voile, il y a, vous le savez, derrière le voile, l'arche de l'Alliance. Et le couvercle de l'arche de l'Alliance s'appelle le propitiatoire. Et ce propitiatoire était également un autel, parce que c'était sur le propitiatoire, donc le couvercle de l'arche de l'Alliance, qu'une fois par an, le souverain sacrificateur apportait le sang de l'expiation sur l'autel du propitiatoire. Et c'était un autel d'or, et il y avait aussi les chérubins de gloire qui étaient représentés sur cet autel, sculptés au-dessus du propitiatoire. Et c'était un endroit très spécial, parce que ce propitiatoire était le lieu de la révélation de Dieu. C'est là qu'il se rencontrait avec Moïse, c'est là que Dieu manifestait sa gloire et sa présence. Il y avait, vous vous rappelez, sur le tabernacle, pendant la nuit, cette gerbe de flammes de feu, et pendant le jour, cette nuée au-dessus du tabernacle. Mais la présence de Dieu était bien réelle, là, entre les chérubins, sur le propitiatoire. Et il y a des mystères, parce que Moïse parlait avec Dieu face à face, comme un homme parle avec son ami. Donc là, il y a une rencontre avec Dieu dans cet endroit qui est absolument étonnant. D'ailleurs, on en parle rarement, mais ce Moïse, qui n'était pas souverain sacrificateur, avait accès au-delà du voile. Étonnant, puisqu'il se rencontrait avec Dieu devant le propitiatoire. Donc ça, c'est le troisième autel, et on va étudier chacun de ces autels. Bien sûr, on va survoler le sujet, mais ça va nous donner des pistes sur notre rôle de sacrificateur dans la Nouvelle Alliance devant ces trois autels. La seule différence dans la confection de ce tabernacle entre l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance, c'est que dans la Nouvelle Alliance, il n'y a plus de voile. Le voile a été déchiré. Donc au lieu qu'il y ait trois pièces, trois lieux, le parvis, lieu saint, lieu très saint, il n'y a plus que deux lieux. Il y a le parvis et il y a le lieu très saint. Puisque le voile s'étant déchiré, la présence de Dieu est répandue partout dans le tabernacle. Donc on va dire qu'il y a un lieu intérieur et un lieu extérieur. Et dans la Nouvelle Alliance, le temple, vous le savez, n'est plus fait de pierre ni comme une tente de camping. C'est marrant d'ailleurs que Dieu se soit trimballé quand même dans une tente de camping. Bon, c'est son choix. Le Seigneur a dit, mais quel temple voulez-vous me construire, franchement ? Les cieux des cieux ne peuvent me contenir. Donc du coup, faites-moi une tente de camping, ça suffira. Et donc du coup, il n'y a plus que ce lieu intérieur et ce lieu extérieur. Et dans la comparaison que je vous fais, cette image que je prends, pour moi, le parvis, c'est le monde. Et nous sommes aussi sacrificateurs pour le monde et dans le monde. Et bien sûr, cette pièce très sainte, c'est nous, c'est l'Église. Alors on va dire aussi nos lieux de culte. Parce que nos lieux de culte sont sanctifiés par la présence de Dieu. Vous savez que Dieu est quand même plus présent ici que dans la boîte de nuit qu'il y avait il y a quelques années en bas. Même si Dieu est omniprésent, Dieu manifeste sa présence dans des lieux géographiques, concrets, matériels, là où il est honoré, accueilli, aimé, adoré. Donc la notion de la présence de Dieu est vraiment différente suivant ce qui se passe sur la terre. L'Église, c'est le lieu privilégié de la présence de Dieu. Alors, je ne parle pas du bâtiment, je parle de nous. Mais nous, dans le bâtiment, fait que le bâtiment peut être rempli de sa gloire et de sa présence. C'est quoi un réveil ? Un réveil, c'est une visitation de Dieu dans un lieu et dans un temps donné de l'histoire. Après, de ce lieu et de ce temps donné, le réveil peut se répandre, et souvent le réveil a des conséquences géographiques internationales, mais il commence et il perdure toujours dans un lieu que Dieu choisit. Et souvent, il y a des personnes, et c'est un peu quelque chose qui... des questions qui nous sont posées concernant les maisons de prière, qui disent, mais pourquoi est-ce que Dieu serait plus dans la maison de prière qu'ailleurs, puisque Dieu est omniprésent ? Mais Dieu choisit des lieux, et principalement des lieux justement où il sait qu'il va être accueilli. Vous savez, la présence de Dieu, elle est avec tous les chrétiens, elle est dans toutes les églises. Mais regardez ce soir, par exemple, et depuis toute cette journée, nous sommes tous présents dans la même pièce, mais je suis plus présent que vous. Pourquoi ? Parce que vous me laissez manifester ma présence. J'ai parlé quelques heures quand même. On est tous présents, mais celui qui manifeste sa présence est plus présent que les autres. Et avec Dieu, c'est pareil. Dieu est toujours présent, surtout dans l'Église. Et n'allez pas dire que dans telle église, Dieu n'est plus présent. Il faut vraiment qu'ils aient été loin dans l'hérésie et dans tout ce que vous voulez pour que Dieu ne soit plus là. Donc Dieu est véritablement présent partout. Mais est-ce qu'on laisse Dieu manifester sa présence ? Et ça fait toute la différence. Les lieux où on laisse Dieu manifester sa présence, il est vraiment présent. Et laisser Dieu manifester sa présence, c'est trois choses. Et c'est Fabienne qui dit ça, c'est pas de moi, c'est les 3 P. Vous n'avez jamais entendu Fabienne parler des 3 P ? Le premier P, c'est la présence. La présence de Dieu est palpable, elle est expérimentale. Ce n'est pas juste une présence par la foi, même si nous savons par la foi qu'il est là, mais c'est à un moment donné où il manifeste sa présence au point où on peut la sentir intérieurement et même extérieurement. Le deuxième P, c'est parole. On laisse Dieu parler. Et ce n'est pas uniquement l'aspect enseignement biblique ou étude de la parole, c'est bien sûr toute la dimension prophétique de la parole de Dieu, c'est-à-dire laisser l'actualité de ce que Dieu veut dire être dit. Par les dons spirituels, mais aussi par l'enseignement, la prédication prophétique, c'est-à-dire enseigner et parler de la part de Dieu, dans l'actualité de Dieu. Et le troisième P, bien sûr, puissance. Manifestation de la puissance de Dieu fait partie de la présence de Dieu révélée. et ça, je ne vous l'apprends pas. Donc, partout où on laisse Dieu agir, il faut s'attendre à avoir ces trois dimensions-là. Une présence manifestée concrètement, ressentie, sa joie, sa paix, sa grâce, son amour, et qui a des conséquences dans la vie des gens. Les gens sont touchés, les gens pleurent, les gens rient, les gens crient, tout ce que vous voulez. Sa parole révélée est pertinente pour l'actualité de nos vies et sa puissance agissante par toutes sortes de signes et de prodiges. C'est un réveil. En fin de compte, je vous parle du réveil, là, j'ai changé de sujet. Et c'est ça qu'on veut. Hein. C'est ça que vous voulez, ici, à Guebwiller. C'est ça qu'on veut, de tout notre cœur. Vous savez, moi, j'ai plus qu'un but dans la vie, c'est de voir le réveil en France. Ça fait 30 ans que je l'attends, 32 ans exactement, que je suis chrétien. Je me suis converti, on m'a dit « le réveil vient ». Si ce n'était pas le réveil, c'était « Jésus revient ». Donc de toute façon, il fallait attendre quelque chose. Non, mais je crois, au-delà de la plaisanterie, qu'il y a quelque chose qui est préparé par Dieu pour notre pays. C'est une évidence. Et il lève un peuple de sacrificateurs justement parce qu'il veut venir avec force, avec grâce, avec puissance. Il cherche des hommes et des femmes qui bâtissent un autel afin qu'ils puissent mettre le feu sur l'autel. Il ne mettra pas de feu s'il n'y a pas de sacrifice. Il ne mettra pas de feu s'il n'y a pas d'autel et s'il n'y a pas de service à l'autel. Nous avons la vision du royaume de Dieu qui nous dit que Dieu veut toucher la société qui nous entoure et c'est vraiment très important dans notre réseau. Mais la société qui nous entoure ne sera touchée véritablement que si la présence de Dieu est dans l'Église, comme jamais. Toutes nos stratégies doivent être enflammées par la présence de Dieu. Toutes nos œuvres, nos projets, que ce soit d'ordre socio-économique, d'enseignement, d'école, tous ces projets-là sont appelés à être enflammés par Dieu. Des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit. Comment est-ce qu'on peut être sacrificateur sans le Saint-Esprit ? Impossible. Mais avec le Saint-Esprit, on devient des hommes et des femmes enflammés et capables de le servir à l'autel. On va voir tout d'abord les deux autels de l'intérieur, l'autel des parfums et l'autel du propitiatoire. Et en fin de compte, je vais vous parler de choses très connues et très habituelles. Je vais vous parler de l'adoration et de l'intercession, qui sont les rôles, les activités principales de la sacrificature de la Nouvelle Alliance dans la présence de Dieu. Adorateur, intercesseur. Devant le Seigneur, le premier autel que l'on trouve, c'est l'autel des parfums. Et l'autel des parfums est juste devant le voile, mais le voile vient d'être déchiré, donc l'autel des parfums est devant la présence de Dieu, devant l'arche de l'Alliance. Et sur l'autel des parfums, on fait monter des parfums d'une agréable odeur à l'Éternel. Et comme on l'a vu cet après-midi, les parfums, ce sont nos prières et c'est notre adoration. Et je vais faire le lien tout de suite entre l'adoration et l'intercession qui suivra ensuite à l'autel du propitiatoire. Parce que l'adoration, c'est toucher le cœur de Dieu. C'est rentrer en connexion avec son cœur. Et quand tu touches le cœur de Dieu, forcément, tu vas être en connexion avec les choses qui sont sur son cœur. Donc c'est lui tout d'abord, la priorité, et tu adores Dieu. Et ensuite, quand tu touches le cœur de Dieu, quand tu le touches lui, tu touches forcément ce qui le concerne. C'est ce que Dieu porte sur son cœur. L'intercession, si on veut la résumer d'une manière très simple, c'est toutes les prières qui sont faites en dehors des prières pour toi-même. Ok ? C'est-à-dire que je m'approche de Dieu et je ne prie plus pour moi-même. Je m'approche de Dieu et je prie pour les autres. Sur le cœur de Dieu, il y a plein d'autres personnes que moi-même. Et on voit un lien très fort entre ce cœur d'adorateur et ce cœur d'intercesseur. Plus tu adores, plus tu vas intercéder. Et plus tu intercèdes, plus tu vas adorer. Parce que le cœur de Dieu te renvoie sans cesse aux besoins du monde qui sont autour de nous. Mais l'amour de Dieu pour le monde te renvoie sans cesse à l'adoration, tellement Dieu est bon et rempli de grâce. Quelques mots sur l'adoration, tout d'abord. Et bien sûr, c'est le texte que l'on connaît par cœur, Jean 4. Lorsque Jésus rencontre la Samaritaine. Heureusement qu'il y a ce texte dans les évangiles. Si vous cherchez un enseignement sur la louange et l'adoration dans les évangiles, vous n'allez pas trouver grand-chose. Enfin, moi, je n'ai pas trouvé grand-chose. Tel qu'on pratique la louange et l'adoration dans nos églises. Mais heureusement, il y a ce texte-là. Et il est fondamental. Et il est fantastique. Qu'est-ce que Jésus dit à la Samaritaine ? Il dit tout d'abord, c'est pas sur cette montagne qu'il faut adorer, ni à Jérusalem, parce que c'est fini l'aspect cultuel dans un temple. Maintenant, c'est une histoire d'esprit et de cœur. Et il va dire, Dieu cherche des adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité. Excusez-moi, je suis un peu fatigué, donc je bute sur les mots. Il commence en disant, Dieu est esprit. Dieu est esprit. Et ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père recherche. Il y a tout. Il y a tout dans ces deux phrases. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Dieu est esprit et que notre adoration ne peut se faire que d'esprit à esprit. Que notre adoration ne se fait que par l'esprit. Il y a une grande différence entre la louange, la reconnaissance envers Dieu de ce que Dieu a fait, la louange qui est une proclamation de foi, la louange qui est une édification mutuelle et une reconnaissance envers Dieu de tout ce qu'il a fait, et qui se fait forcément avec notre âme, avec notre intelligence, avec notre compréhension des choses, avec notre souvenir de ce que Dieu a fait. Comme David dit à son âme, hein, « Bénis l'Éternel, ô mon âme hein. !» Il rappelle à son âme le commandement de la louange. Mais lorsqu'on passe dans l'adoration, on va passer à quelque chose qui est d'esprit à esprit. Nous sommes un être assez compliqué. Esprit, âme et corps. On ne va pas faire le cours hein, sur l'anthropologie. Mais comment comprendre l'adoration si on n'a pas conscience que nous avons un esprit ? Et que c'est dans notre esprit que nous adorons Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit, bien sûr. La Bible nous dit que celui qui est né de nouveau est avec Dieu un seul esprit. C'est-à-dire qu'il est en communion de vie, dans une relation d'esprit à esprit avec Dieu. C'est ce qui fait aussi qu'on est unis les uns aux autres, parce que nous sommes tous unis par le Saint-Esprit à Dieu. C'est une relation spirituelle, ça s'appelle la communion fraternelle. C'est quelque chose qu'on ne peut pas créer, c'est quelque chose qui est là. Et dans notre relation avec Dieu, c'est pareil. Ton esprit est en relation avec Dieu, il est en communion avec Dieu. Et ton esprit est toujours en communion avec Dieu. Mais c'est parce qu'on vit beaucoup plus dans notre âme qu'on oublie très souvent cette communion d'esprit à esprit. Et donc il faut se reconnecter à notre esprit pour le mettre dans une position d'adoration. Alors peut-être c'est du charabia ce que je vous dis, mais peu importe, je le dis quand même. Pourquoi est-ce que Dieu nous a donné le don du parler en langue ? Le don du parler en langue... C'est un don spirituel, un des 9 dons spirituels qui nous a été donné pour notre édification personnelle. L'édification personnelle du chrétien, c'est avant tout de parler en langue. Et l'apôtre Paul dira, moi je parle en langue plus que vous tous. Mais dans l'église, je prophétise seulement. Pour que les autres soient édifiés. Mais il parle en langue, l'apôtre Paul. Pourquoi devenir des adorateurs en esprit et en vérité, il faut fortifier, édifier, construire notre esprit. Alors, le parler en langue n'est pas la seule manière de le faire, mais c'est un des moyens les plus forts et les plus importants qui est à la portée de tous et qu'il nous faut mettre en action. Pour adorer Dieu en esprit, il faut que notre esprit prenne de plus en plus de place en nous. Vous savez que le chrétien est appelé à marcher par l'esprit. Marcher par l'esprit, c'est un autre enseignement. Je m'arrête là-dessus, sinon. Notre esprit est en communion avec l'esprit de Dieu. Je parle en langue, j'édifie mon esprit et je laisse l'esprit de Dieu me conduire dans l'adoration. Et je vous donne une image qui est très simple et qui est facile à retenir et qui va peut-être vous aider pour passer de la louange à l'adoration. L'image que je prends, c'est l'image de l'avion et du planeur. Alors vous êtes prêts, on va décoller. Un avion décolle avec son moteur pour emmener derrière lui un planeur qui n'a pas de moteur. L'avion qui décolle, le bimoteur, là, c'est la louange de notre âme. D'accord ? C'est une image. Le planeur qui est derrière, c'est l'adoration de notre esprit. Mais pour pouvoir adorer, il faut se mettre en communion avec l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, c'est les vents ascendants qui sont dans le ciel là-haut. Donc on commence un temps de louange. Ce n'est pas une technique que je vous donne, mais c'est souvent ça qui se passe quand même en réalité. En décollant, d'ailleurs on le dit souvent en équipe de louange, oh, on a décollé ce matin, on a senti que ça avait décollé. On décolle, on met le moteur en action. Ça fait du bruit, proclamation, reconnaissance, on y va, et on monte. Et le moteur de notre âme rend gloire à Dieu, bénit l'Éternel mon âme, et on y va avec les cymbales, avec la musique, avec tout ce qu'on peut proposer au Seigneur pour lui dire qu'on l'aime et pour proclamer notre foi. Et on monte comme ça. Et puis à un moment donné, on arrive même dans un endroit qui s'appelle les hautes louanges. J'ai entendu parler des hautes louanges. C'est un moment où on a l'impression qu'on est presque avec les anges. C'est toujours des chants qu'on chante dans notre répertoire, mais alors là, il s'est passé quelque chose. Et là, dans ces hautes louanges, le Saint-Esprit, d'un seul coup, vient. Et vous savez, dans les temps de louanges, que ce soit même individuel, hein, même tout seul dans sa chambre ou communautairement, il y a toujours un moment donné où on sent qu'il est là, le Seigneur. Vous dites, mais il était là avant, mais d'un seul coup, il commence à dire, ouais, c'est bon, je vais manifester ma présence. Et là, il va falloir lâcher le planeur. J'ai jamais fait du planeur, mais j'imagine que c'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils sont assez hauts, il y a des vents qui sont favorables, et tac, on décroche le câble, et le gars qui est de l'autre côté, il se retrouve tout seul avec son planeur, et il plane. J'aime bien cette image. L'adoration, c'est le moment où on lâche le planeur, parce qu'on a trouvé un vent ascendant, le vent du Saint-Esprit. Et le planeur, vous avez remarqué, il fait beaucoup moins de bruit, lui. Alors, ça ne veut pas dire que l'adoration n'est pas bruyante, elle peut l'être. Mais en général, il y a quelque chose qui est plus du domaine de l'intimité, du domaine de l'écoute. Et d'un seul coup, pouf, le planeur, il remonte dans des courants ascendants. Et c'est cette image de notre esprit qui a connecté avec l'Esprit de Dieu et qui se met à suivre le Saint-Esprit dans la présence de Dieu. Et quand tu suis le Saint-Esprit dans la présence de Dieu, excusez-moi pour les équipes de louanges, tu n'as plus de programme préparé. Tu regardes tes chants et tu ne sais plus lequel prendre. Parce que ça ne correspond pas forcément à ce qu'on est en train de vivre. Et quand on entre dans ces étapes-là, c'est ce qu'on appelle souvent la louange prophétique, mais c'est un mot qui ne veut pas dire grand-chose, c'est une adoration où on laisse Dieu conduire le temps d'adoration. et on laisse Dieu parler dans l'adoration, et on laisse Dieu manifester sa puissance dans l'adoration. Et les trois P dont je vous ai parlé tout à l'heure ont toute leur place dans ces moments-là. Parce qu'un moment d'adoration, c'est aussi un moment de révélation. Toujours dans le texte qu'on vient de commenter, Jésus dit « Nous adorons ce que nous connaissons ». Alors il dit ça par rapport au peuple juif, hein, qui connaît le vrai Dieu, mais on peut reprendre ce principe-là pour nous-mêmes. Tu ne peux adorer de Dieu que ce que Dieu révèle de lui-même dans l'instant présent. Tu ne peux pas adorer Dieu dans le passé, ni dans le futur. Tu adores Dieu dans la révélation présente. Et Dieu se révèle, toujours. Dieu montre toujours qui il est, mais pas forcément toutes les facettes de sa personne. Il y a des temps d'adoration où Dieu révèle son cœur de Père. Et dans ce cas-là, on est en train d'adorer le Père et souvent de vivre en même temps des guérisons de son amour. Et on peut être baigné dans l'amour du Père dans ces moments-là. Et c'est de l'adoration, parce que l'adoration, c'est une relation. Ce n'est pas juste, moi j'adore le Père et puis le Père, il écoute mon adoration et il est content. Non, je suis en relation avec le Père qui se révèle et du coup il agit en tant que Père. Il déverse son amour dans mon cœur et toutes sortes de choses peuvent se vivre. Mais il y a d'autres moments, Dieu va révéler sa sainteté. Et on va vivre des temps d'adoration sur la sainteté de Dieu ou alors des temps de repentance, je ne sais pas. Il y aura une réponse différente à la révélation qui est reçue. On l'a tous vécu, hein. Dieu va se révéler comme le chef de guerre, celui qui est en combat contre les puissances spirituelles. Et d'un seul coup, notre adoration prend une espèce de dimension d'autorité spirituelle et de combat spirituel. Parce que Dieu est en train de parler de cela. Et d'autres fois, Dieu révèle sa joie. Hein, souvent, on a mis la joie dans la louange, mais la joie dans l'adoration, c'est quelque chose aussi. Et là, on pète des câbles. Parce que le Seigneur tourbillonne de joie avec nous. Vous avez déjà vu l'Éternel des armées tourbillonner de joie? Quand il est dit dans Sophonie, j'aurai des transports d'allégresse à cause de toi, c'est le mot tourbillonner qui est utilisé. Dieu n'est pas statique dans l'adoration. Et quand il se révèle dans sa joie, il nous embarque tous dans son tourbillon de joie. Alors tout ça, ce sont des exemples de ce que nous pouvons vivre dans l'adoration. Il y a une infinité de possibilités de cette connexion et cette relation avec Dieu. Et puis d'un seul coup, Dieu nous dit, et Dieu nous parle dans l'adoration, et il nous parle d'un seul coup de ce million de personnes qui se trouvent en ce moment piégées à Mossoul. C'est terrible ce qui se passe là-bas. Il y a 1 million de personnes piégées dans cette guerre-là à Mossoul. Et d'un seul coup, le Seigneur parle de ça. Et si on est connecté au Seigneur et à son fardeau pour ceux de Mossoul, on va se mettre à intercéder avec un feu pour les gens de Mossoul, qu'on n'avait pas du tout à cœur au départ. Mais c'est sur le cœur de Dieu. Parce que sur le cœur de Dieu, il y a des trucs qui ne sont pas sur notre cœur, forcément. Il y a certaines choses qui sont sur notre cœur, mais d'autres qui n'y sont pas. Et parce que le Seigneur trouve un lieu où poser sa gloire, où manifester sa présence, alors il trouve des intercesseurs, il les cherche en tout cas. Parfois, il ne les trouve pas, mais il les cherche. Est-ce que je vais trouver un homme qui se tienne à la brèche en faveur du pays? Alors, j'ai cité Mossoul comme exemple parce que c'est une actualité, mais tellement de sujets sur le cœur de Dieu. Et du coup, l'adoration et l'intercession ne deviennent qu'une seule chose. Et ça, c'est magnifique. Et c'est vrai que dans nos cultes du dimanche matin, on n'a pas le temps de vivre tout ce que je vous raconte. C'est pour ça que les maisons de prière, c'est des lieux fantastiques pour ça. Parce qu'on a du temps. Il y en a qui disent le temps, c'est de l'argent. Moi, je lui dis, le temps, c'est du combat. On n'a pas assez de temps dans la présence de Dieu pour vivre ce que Dieu veut qu'on vive. Si vous voulez un réveil, excusez-moi, il va falloir prendre du temps. Tous ceux qui vivent des réveils, c'est tous les soirs, et c'est des réunions qui durent 5 heures. C'est ça, hein ? Vous demandez à Toronto à l'époque, à Bethel aujourd'hui ou ailleurs, je ne sais plus, à Pensacola, en Argentine, c'est des réunions qui durent 5 heures. Et ils font ça après le boulot. Ils vont à l'église après le boulot, 5 heures dans la présence de Dieu, et le lendemain ils se réveillent, et après ils font le ménage aussi. Il faut, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Il n'y a pas que ceux qui prêchent. Et c'est à Pensacola, aux États-Unis, quand il y a eu le réveil. Ça a duré plusieurs années, mais je crois que c'était au bout de 4 ans de réveil, réunion tous les soirs, sauf relâche, je crois, le lundi, quelque chose comme ça. Au bout de 4 ans, le pasteur, il réunit tout son staff. Les gars, ils travaillaient toute la journée, ils arrivaient à l'église à 5 heures, ils en sortaient à 1 heure du matin, ils recommençaient tous les jours depuis 4 ans. Il réunit tout son staff et leur dit, bon, je sens que là, vraiment, on a besoin d'un break. Ça va être les vacances de Noël, on va arrêter 15 jours et on reprendra au mois de janvier. Ils ont tous dit non. Non. On ne veut pas arrêter. On ne veut pas arrêter. On ne veut surtout pas perdre ce qu'on a. C'est incroyable. Et donc ils ont continué pendant les vacances de Noël. Et le gars, il raconte ça, il pleurait quand il racontait ça. Parce que lui, il voyait l'usure, la fatigue, et les familles, et toute la vie qui continue. Mais les gens qui vivent le réveil, ils veulent que ça continue. Ils ne veulent pas que ça s'arrête. Alors, il faut que je gère mon temps. Ça va. On va avoir ça en France. Hein. On va avoir ça en France. Il faut qu'on se prépare, on est déjà un peu fatigué, mais on ne sait pas ce que c'est encore. On a eu quelques prémices à certaines époques. Deuxième chose sur l'adoration, avant de reparler de l'intercession plus en détail, j'aimerais finir encore sur l'adoration quelques temps, c'est la notion de la transfiguration. On va lire ce texte que vous connaissez bien, c'est les textes favoris hein, des louangeurs. Il se trouve dans 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18. On va lire à partir du verset 15 et jusqu'au verset 18. On connaît bien ce texte. « Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. » Et si on prend le contexte dans lequel Paul enseigne, il est en train justement de comparer les deux alliances. Et il compare la dimension de gloire que Moïse a vécue dans l'ancienne alliance avec ce que nous pouvons vivre dans la nouvelle alliance. Et il va jusqu'à dire ce que Moïse a expérimenté n'est rien en comparaison de ce que nous pouvons vivre, nous, dans la nouvelle alliance. Il y a du culot quand même. Parce que moi, j'aimerais bien vivre ce que Moïse avait vécu. Mais Moïse vivait une gloire extérieure, comme j'en ai parlé cet après-midi, alors que la Nouvelle Alliance nous fait entrer dans une gloire intérieure, permanente, qui nous transforme. Et le mot grec, c'est métamorpho. C'est une métamorphose intérieure, c'est-à-dire un changement de nature. La chenille est en train de devenir papillon. C'est-à-dire que nous étions créés à l'image de Dieu dans une nature humaine et nous sommes en train d'être rendus participants de la nature divine. C'est un mystère total. Nous savons juste une chose, c'est que lorsque nous le verrons, Jésus, nous serons semblables à lui. Dis ça à ton voisin, ça va l'encourager. Lorsque tu le verras, tu seras semblable à lui. Et si c'est ta femme, elle va te dire, bah, j'espère que ça va aller vite pour toi. Quoi. Voilà, c'était le petit interlude. Et donc l'apôtre Paul, là, dans ce texte, nous dit que nous allons être transformés et que nous sommes déjà en train d'être transformés de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Mais il pose une petite condition à cela. C'est ce que j'appelle la conversion au Saint-Esprit. Il parle d'Israël, bien sûr, hein, et il dit que lorsqu'ils se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Et c'est étonnant dans ce texte, et c'est le seul endroit de la Bible où le Saint-Esprit est expressément appelé Seigneur. Vous le trouvez nulle part ailleurs. Saint-Esprit est Seigneur, puisque le Saint-Esprit est Dieu. Mais là, il le précise. Il dit, lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. On s'est tous convertis à Jésus. Je vais vous prêcher. La référence est toujours la même. 2 Corinthiens 3, 15 à 18. Qu'est-ce que je disais ? Oui, on s'est tous convertis à Jésus. Et je vais vous inventer une nouvelle doctrine. Il faut aussi se convertir au Saint-Esprit. Parce que Jésus, tu peux te convertir à Jésus en 1983, c'était mon cas, et puis continuer à vivre un petit peu sans lui. Ce n'est pas mon cas, j'espère. Mais ça peut arriver. Vous savez qu'on peut être chrétien et ne pas grandir, rester un bébé en Christ toute sa vie. Donc à un moment donné, il faut un autre type de conversion. Alors ça peut être au même moment que la conversion à Jésus, mais une autre compréhension, c'est-à-dire que le Saint-Esprit est en toi, mais le Saint-Esprit n'impose rien. Le Saint-Esprit, on le dit souvent, c'est une colombe, c'est un maître doux, hein, mais il vit réellement en toi et il propose sa seigneurie, il ne l'impose pas. Et si tu te convertis au Saint-Esprit, ça veut dire que tu dis, Saint-Esprit, sois le Seigneur de ma vie. Saint-Esprit soit celui qui me conduit. C'est-à-dire que tu entres en fin de compte dans une relation quotidienne avec le Saint-Esprit. Donc avec Jésus, Jésus en toi par le Saint-Esprit. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est facile quelque part de dire Jésus est Seigneur, il est là-haut sur le trône. C'est autre chose de dire le Saint-Esprit en moi est Seigneur. Il me parle et il faut que j'obéisse. On a tous entendu parler de Bénin, on peut penser tout ce qu'on veut sur Bénin, mais la clé du ministère de Bénin, c'est cher Saint-Esprit. C'est sa relation avec le Saint-Esprit. Et quand il est dans l'action de son ministère, il ne fait qu'une seule chose, il écoute le Saint-Esprit. Et il fait ce que le Saint-Esprit lui dit. Et en fin de compte, le modèle qu'il a, il ne l'a pas inventé. Jésus ne faisait que ce qu'il voyait faire le Père. Il était venu non pour, pas pour faire sa volonté, mais celle de son Père, et il le suivait en toutes choses. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça ? Parce qu'il y a un lien direct entre cette conversion au Saint-Esprit et l'adoration. Parce que lorsqu'on se convertit au Saint-Esprit, le voile est ôté, c'est-à-dire qu'intérieurement, il y a quelque chose qui se brise, qui se sépare. On appelle ça la séparation entre notre âme et notre esprit. L'Épître aux Hébreux nous parle de ça, une séparation intérieure, et d'un seul coup, le voile est ôté. On connaît que nous sommes aussi esprit. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. C'est d'un seul coup, on sait par l'esprit qu'il y a une autre dimension en nous. Et cette dimension-là, c'est l'écoute de Dieu. cette dimension-là, c'est la communion avec Dieu. Cette dimension-là, c'est une nourriture spirituelle. C'est un vent que nous suivons. C'est le planeur encore qui se laisse conduire. Un homme qui est conduit par l'esprit, on ne sait ni d'où il vient ni où il va. Et quand il est là, on s'en rend compte. C'est cette relation intime avec lui. Et je la cherche encore. Je ne dis pas que je suis arrivé là. Mais c'est quelque chose dans lequel il faut absolument qu'on grandisse ensemble. Et cette relation avec le Saint-Esprit nous transforme. Parce qu'on le contemple, hein, nous tous dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Il y a une contemplation spirituelle et on va refléter celui que nous adorons et on va être transformés. Pour résumer ce que je vous dis, l'adoration, la vraie adoration, produit une transformation dans la vie des chrétiens. Si on vit un vrai temps d'adoration, on en ressort transformé. Alors, c'est pas... Voilà, on nous reconnaît quand même, je vous rassure. Mais il y a quelque chose en nous qui s'épanouit à la ressemblance de Christ. Tu en ressors plus doux. Tu en ressors plus humble. Tu en ressors plus bon. Vous voyez ce que je veux dire ? Toute la personnalité de Christ en toi s'épanouit. Parce que nous sommes déjà comme Christ. Il faut juste que ça prenne la place dans notre âme. Il faut juste que les choses de l'esprit gouvernent notre âme. On est des gens fantastiques. Nous sommes déjà, comme tu le disais tout à l'heure, parfaits. Mais c'est dans notre esprit que ça se passe. Et lorsque notre esprit prend le gouvernement de notre vie, alors notre âme est envahie par le royaume de Dieu. Et il faut que notre âme soit envahie par le royaume de Dieu, parce qu'il va falloir aller porter ça à l'extérieur. Et les gens à l'extérieur, ils ne sont pas en relation avec notre esprit. Les gens à l'extérieur, ils sont en relation avec notre âme. Et si l'âme des chrétiens, c'est un chantier de plainte, de misère et de ce que vous voulez, les gens du monde, quand ils sont en relation avec les chrétiens, ils sont en relation avec des gens du monde. Je suis un peu dur en disant cela, mais vous voyez ce que je veux dire ? C'est d'âme à âme, et l'âme de l'homme ne va pas faire grand-chose pour l'âme de l'homme. Parce que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout, même celui du chrétien. Mais lorsque l'Esprit de Dieu, et notre esprit, a grandi, a pris sa place, a laissé la transformation se faire, alors notre âme est envahie par Christ. Et dans nos relations, ça change tout. Mais je vais y venir tout à l'heure. Quelques mots sur l'intercession. L'intercession, je vous rappelle, on la situe devant le propitiatoire. Parce que le souverain sacrificateur, lorsqu'il entrait une fois par an dans le lieu très saint, dans la présence de Dieu, il n'était pas habillé n'importe comment. Il avait les vêtements sacerdotaux. Je vous encourage à étudier les vêtements sacerdotaux, il y a des trucs magnifiques à étudier et à découvrir. Et sur sa poitrine, il avait le pectoral, que l'on connaît bien, le pectoral du jugement. Et sur ce pectoral, il y avait les 12 pierres enchâssées, sur lesquelles était gravé le nom des 12 tribus d'Israël. Donc il entrait sur son cœur les 12 tribus d'Israël. Il était en fin de compte représentant des tribus d'Israël devant la gloire et la sainteté de Dieu pour faire l'expiation. Et il a amené le sang sur l'autel pour demander le pardon pour les 12 tribus. Il était identifié aux 12 tribus et en plus lui-même il en faisait partie parce qu'il était lui-même pécheur. Et cette image-là, c'est l'image de l'intercesseur. Vous vous rappelez, pour ceux qui étaient là ce matin, je nous ai dit, j'ai lu le verset qui nous demandait de considérer Jésus comme apôtre et comme souverain sacrificateur. Et c'est exactement deux chemins inverses qu'ils font. L'apôtre, il est envoyé par Dieu pour représenter Dieu parmi les hommes. Il est en mission, représentant de Dieu parmi les hommes. Le souverain sacrificateur, c'est exactement l'inverse. Il est choisi parmi les hommes et il est envoyé devant Dieu pour représenter les hommes devant Dieu. Le premier, c'est un ambassadeur. Il part de Dieu comme ambassadeur pour le représenter dans le monde. Le deuxième, c'est un intercesseur. Il part des hommes pour les représenter devant Dieu et plaider leur cause. Lorsque nous entrons devant le propitiatoire, nous sommes intercesseurs, c'est-à-dire que nous représentons les hommes devant Dieu. Alors bien sûr, Jésus est l'intercesseur parfait. Sur son propitiatoire, il y a tout le monde, il y a toutes les nations. Mais il nous utilise, il nous fait entrer dans son intercession et il fait briller sur notre pectoral, merci. Il fait briller sur notre pectoral les pierres qui sont les nôtres, qui sont celles qu'il nous confie. Pour certains, ça va être une nation particulière. Certains vont avoir à cœur l'Italie, par exemple. Pris ça au hasard. D'autres vont avoir à cœur Israël. D'autres vont avoir à cœur la France. Et comme je disais tout à l'heure, on est tous au moins sacrificateurs pour notre propre nation. Mais ça peut aussi être des catégories de personnes. Certains vont avoir sur leur pectoral les enfants. D'autres vont avoir sur leur pectoral les mères célibataires. D'autres vont avoir sur leur pectoral les réfugiés. D'autres vont avoir sur leur pectoral les Colombiens, etc., etc. Donc chacun d'entre nous, nous avons sur notre pectoral des personnes ou des catégories de personnes, des peuples, des nations, dont nous sommes responsables devant Dieu. Alors on n'est pas tout seul pour prier pour eux. Et souvent d'ailleurs, on se réunit avec ceux qui ont le même pectoral pour pouvoir intercéder ensemble, parce qu'il y a une puissance dans l'intercession communautaire. Ceux qui ont à cœur les mêmes nations, les mêmes catégories de personnes. Certains, ça va être des catégories socio-professionnelles. Ceux qui ont à cœur les hommes d'affaires, ceux qui ont à cœur les hommes politiques. Et parfois, on voudrait qu'on intercède pour tout le monde, mais on ne peut pas intercéder pour tout le monde. Intercédons pour les fardeaux que Dieu nous donne. Et je crois que le Seigneur confie aussi aux églises locales des fardeaux particuliers, des pays particuliers, des catégories de personnes particulières. Et chacun d'entre nous, nous avons notre pectoral. Et lorsqu'on est dans l'adoration, et ça j'aime, c'est souvent Fabienne qui dit cela, et je trouve une belle image, d'un seul coup le Seigneur fait briller certaines pierres de notre pectoral, parce qu'on en a beaucoup, mais il y en a certaines qui se mettent à briller, parce que c'est ce que Dieu veut qu'on fasse là. Dans ce moment-là, tu te mets à intercéder pour cette pierre-là. Et puis parfois il y a des pierres qui ne sont pas sur notre pectoral, mais qui sont tellement importantes sur le cœur de Dieu ou sur l'actualité de Dieu, que Dieu nous les rajoute juste pour un temps. Comme je disais tout à l'heure, Mossoul, etc. On va peut-être prier ce soir juste pour ça, parce que c'est le temps de Dieu, et puis après on ne priera plus jamais pour ça. Mais parce qu'on est attentif et on est réceptif à l'éclairage de Dieu sur notre cœur. Dans l'intercession, nous n'avons qu'une plaidoirie possible. Vous la connaissez, c'est la puissance du sang de Jésus. On peut dire plein de choses dans la prière. Et vous avez déjà prié pour des sujets, vous avez plein de choses à dire. Mais rapidement, on ne sait plus quoi dire. Parce que l'intercession, c'est une position spirituelle. Ce n'est pas que des mots. Parce que surtout qu'il y a des prières qui ne sont pas exaucées tout de suite. Vous avez remarqué, on le saurait, si c'était toujours tout de suite. Il y a des prières qui vont prendre du temps. Il y a des prières qui sont dans la persévérance de l'intercession et de la prière. Et donc, c'est une position spirituelle que je tiens devant Dieu, entre Dieu et les hommes, entre Dieu et le monde spirituel, entre Dieu et les puissances. Je me tiens comme un intercesseur, je suis sur une brèche. Et je dis, ça va changer parce que je me tiens là. Et je renvoie à Dieu une partie de lui-même. Et cette partie de lui-même, c'est sa grâce. L'intercesseur ne prie jamais pour le jugement. C'est comme ceux qui prophétisent toujours les jugements de Dieu. Il faut arrêter avec ça. Les jugements appartiennent à l'Éternel. On n'a rien à faire là-dedans. Rien, absolument rien. Par contre, la grâce de Dieu, c'est notre business. C'est à nous de plaider la grâce. Dieu cherche quelqu'un, justement, qui va retenir son bras. Quelqu'un sur la terre qui va dire, mais non, Dieu, ce n'est pas encore le temps de juger. Mais c'est le temps de faire grâce. Comment est-ce qu'on peut avoir cette assurance devant le trône de Dieu? C'est parce que Jésus a payé le prix. C'est parce qu'il y a un sang qui parle beaucoup plus fort que tous les autres sangs qui ont été versés sur la terre depuis le sang d'Abel le juste jusqu'au sang de Zacharie. C'est le sang de Christ. Le sang de Christ. Le sang de Christ. Le sang de Christ. Et on rappelle à Dieu l'œuvre de son Fils. L'intercesseur, c'est ça qu'il fait. Je veux dire, mais pourquoi est-ce que Dieu a besoin qu'on lui rappelle? Parce que nous sommes en Christ, incorporés. Nous faisons partie, c'est un privilège extraordinaire. Nous faisons partie de l'œuvre de Christ d'une toute petite manière, en étant des intercesseurs et en étant des témoins, on le verra. Et c'est tellement important que l'Église retrouve cette position-là. Et je vous assure, en France, on a perdu du terrain et il faut le regagner. Moi, je me rappelle de la dimension de l'intercession dans les années 80 et 90 en France. Il y avait du high level. Alors, il n'y a pas de regret ou quoi que ce soit, mais il faut qu'on retrouve ça. Il faut qu'on retrouve ça, il faut qu'on l'ancienne à la génération qui monte. Ça, je m'adresse aux vieux de la vieille, là. Il y aurait plein de choses à dire, comme d'habitude, mais je vais passer au troisième point. Juste un petit point qu'on oublie souvent. Le souverain sacrificateur avait 12 pierres sur son pectoral. Il avait également 12 pierres sur ses épaules. Il y avait les épaulettes de l'éphod. Il y avait 6 pierres d'un côté, 6 pierres de l'autre. Et pareil avec le nom des 12 tribus. Et j'ai longtemps cogité là-dessus. Je dis, Seigneur, ça correspond à quoi? Celle-là, c'est l'intercession pour les nations. Pour tout. Et ça, c'est quoi? Et le Seigneur m'a dit simplement, c'est la loi de Christ. Galates. C'est marrant parce qu'à chaque fois que je dis ça, tout le monde me regarde et dit, c'est quoi ce truc? Galates 6.2. La loi de Christ. Vous ne connaissez pas ce verset bien connu? Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Donc sur notre cœur, on a les nations, sur nos épaules, on a nos frères et sœurs. Bon, c'est une image, vous faites ce que vous voulez, vous pouvez mettre le contraire si vous voulez. Mais c'est juste pour différencier ces deux priorités complémentaires. Tu n'intercèdes pas pour toi-même. La maturité chrétienne, c'est ne plus prier pour soi. C'est un peu caricatural. Arrêtons de nous occuper de nous-mêmes. Oui, vous allez me dire, mais moi j'ai plein de problèmes. Mais oui, mais moi aussi j'ai plein de problèmes. Qui n'a pas de problème ici? Levez la main. Il faut arrêter, même les ministères de gloire, là, ils ont tous des problèmes, les gars. Il faut arrêter avec ça. On a tous des problèmes. Alors bien sûr, on les présente au Seigneur, on prie. Mais à un moment donné, on dit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu les connais, mes problèmes. Moi, ce que je cherche, c'est ton cœur. Et sur ton cœur, il n'y a pas mes problèmes, il y a les problèmes des autres. Tu peux rien, c'est comme ça que ça marche. Il y a les problèmes du monde entier. Il y a le salut de la planète. Il y a tous des trucs qui... Et d'un seul coup, c'est l'arbre qui cache la forêt, quoi. Et d'un seul coup, ça... mes problèmes, alors... Je ne suis pas en train de minimiser nos problèmes. On peut avoir des grandes difficultés dans nos vies, bien sûr. On les présente devant Dieu. Mais je parle de manière générique. Si, dans notre vie de prière, c'est 90% de prière pour soi et 10% de prière pour les autres, il y a un problème. Il va falloir commencer à rééquilibrer le truc. Et puis je rajouterai dans les 90% de pour soi, ça c'est pour les parents, on met nos enfants avec, ce qui est bien, c'est prioritaire. Mais si tu pries que pour toi et que pour tes enfants, tu n'es pas encore dans la maturité. Il faut vraiment laisser Dieu élargir notre cœur. Élargissez votre cœur. L'Esprit de Dieu va élargir mon cœur à la dimension de son pectoral. Et on arrive à la fin de tout cela, on va sortir de la tente de la rencontre avec Dieu pour aller rencontrer les hommes. Il y a deux rencontres dans la vie. Il y a la rencontre avec Dieu et la rencontre avec ton prochain. Vous allez me dire, il y a aussi la rencontre avec ta femme. Oui, mais bon, ça, c'est ton prochain aussi, sauf qu'il est un peu plus proche que les autres. Mais il n'y a que deux rencontres. On rencontre Dieu et on rencontre les hommes. Qu'est-ce qu'il a fait, Jésus ? Il n'a fait que ça. Il n'a pas fait beaucoup d'administratif, lui. Bon, il faut en faire l'administratif. Mais vous voyez ce que je veux dire ? L'essentiel, le cœur de tout ce qu'on vit, c'est la relation avec Dieu et avec le monde qui nous entoure, et bien sûr les uns avec les autres. Donc on sort de la tente de la rencontre, on arrive dans le parvis. Et le parvis, dans le tabernacle de Moïse, c'était le seul endroit du tabernacle où les non-lévites, donc les membres des autres tribus d'Israël, avaient le droit d'entrer. Ils pouvaient venir dans le parvis et en apportant un agneau, un animal pour le sacrifice, etc. Donc ils étaient accueillis. Le parvis, c'est le lieu de l'accueil. Le parvis, c'est le lieu de la rencontre avec les problèmes du monde. Le parvis, c'est le lieu de la rencontre avec ceux qui sont perdus. Alors, on a tous un parvis dans nos vies, bien évidemment, puisque on est dans le monde, on travaille, on a des voisins, on a parfois une famille non chrétienne. Donc, on a tous un parvis, on a tous un lieu et des lieux de rencontre avec les gens du monde. Mais là, je voudrais parler d'un parvis qui devient intentionnellement un lieu de sacrificature. C'est-à-dire, c'est pas juste je vais bosser parce qu'il faut que je travaille, ou je vais au repas de famille parce qu'il faut que j'y aille, etc. Mais je suis intentionnellement en mission dans le parvis. Et c'est beaucoup plus facile de l'être ensemble. C'est pour ça qu'il y a une dimension communautaire d'évangélisation et de témoignage qu'il faut qu'on trouve. Chaque église, hein, y travaille, mais une dimension ensemble dans le parvis. Qu'est-ce qui se passe dans ce parvis ? Il y a un autel qui s'appelle l'autel d'airain. L'autel d'airain, c'est le sacrifice de Jésus à la croix. Vous rappelez, Jésus a été sacrifié hors de la porte. C'est-à-dire qu'il est sorti de Jérusalem en portant sa croix. Et il a été jusqu'au mont Golgotha. Et l'Épître aux Hébreux nous dit, suivons-le hors de la porte, en portant son opprobre, pour aller au lieu du mont Golgotha. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est un principe qui est un principe fort, et qu'on a parfois du mal à accepter ou à comprendre, qui nous dit, et c'est Paul qui le dit en parlant de son ministère, la mort agit en moi et la vie agit en vous. Jésus a dit, si le grain de blé ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Le grain de blé, c'est Jésus. Jésus donne sa vie. Et en donnant sa vie, en mourant sur la croix, il va porter une multitude de fruits. Mais ça ne se fait pas automatiquement. Ça ne se fait pas sans nous. Le fruit du salut est porté par l'Église depuis 2000 ans. Comment entendront-ils s'il n'y a personne qui prêche ? Comment se convertiront-ils s'il n'y a personne qui leur témoigne ? Etc., etc. Mais le principe de la mort, pour qu'il y ait la vie, reste central au parvis. Partout, et je l'ai dit cet après-midi, mais je le redis, partout où il y a un réveil de vie, sans parler d'un grand réveil, mais je veux dire une manifestation de la vie, de résurrection de Christ, des conversions, du salut, de la guérison, des choses comme ça, partout où il y a ça, sachez qu'il y a des gens qui ont donné leur vie, qui sont montés sur l'autel, pas pour mourir, mais pour vivre, consacrés à Dieu. Partout où la vie de résurrection de Christ est semée dans les nations, des hommes et des femmes ont donné leur vie. Il faut prier et encourager les missionnaires. C'est un prix élevé d'être missionnaire, surtout en France. Bénissez vos missionnaires, si vous en avez, même s'ils sont là depuis des années. Continuez de les bénir et de les soutenir. Parce qu'ils participent à la mort de Christ. Il y a un renoncement dans l'appel missionnaire. Quitte ton pays, ta parenté, ta famille, tes traditions, ta culture, et va dans le pays que je vais te donner en héritage. Et identifie-toi à ce pays et donne ta vie pour ce pays. C'est ce que fait un missionnaire. Alors, il n'y a pas que les missionnaires qui le font. Hein. Mais je souligne ça parce que je côtoie encore des missionnaires et je sais que ce n'est pas facile. Et je sais que parfois, ils se sentent très seuls, même si leur ministère a l'air de réussir. Le parvis, c'est un lieu de résurrection. Dans le parvis, on fait la fête. Dans le parvis, on loue le Seigneur. Il y a une louange du parvis qui est très importante. La louange peut être très utile dans l'évangélisation. Les gens du monde n'ont pas peur de la louange et de la présence de Dieu, je vous assure. Ils aiment ça. Donc c'est un lieu festif, le parvis, c'est un lieu d'accueil. Qu'est-ce qu'ils faisaient les lévites dans le parvis? Ils accueillaient les gens. Le gars, il arrive, il venait pour être pardonné d'un péché, quoi. Parfois, il venait avec des histoires lourdes. Donc il y a tout un côté pastoral dans ce parvis. Ils sont accueillis par les lévites, les sacrificateurs, et donc il y a une relation qui se crée, qui est une relation d'amour, une relation pastorale, où on accueille. Et quand on fait tout cela, on est dans la sacrificature. On est dans la sacrificature. On est en train de prolonger notre adoration et notre intercession par de l'action, par de la compassion. Le verset « La mort agit en nous et la vie agit en vous », c'est 2 Corinthiens 4, versets 11 et 12, pour ceux qui veulent avoir la référence. L'autel, c'est la croix. Et Jésus dit « Lorsque j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Et on peut reprendre ce principe avec la notion de la louange et de la proclamation. Lorsque Jésus est élevé, il attire. Lorsque Jésus est élevé, il attire les hommes. Faire des autels de louange et d'adoration attire spirituellement ceux que le Père veut sauver. Et il y a une connexion entre la louange et l'évangélisation qu'il faut qu'on retrouve. Dans Ésaïe, il est dit « Je ferai germer le salut et la louange ». En présence de toutes les nations. Et cette connexion entre louange et salut va produire un fruit fantastique. Partout où il y a un réveil, il y a une forte louange qui parle de la croix de Christ et de l'œuvre de Christ. On recompose des chants sur les fondements de l'œuvre de Christ lorsqu'il y a un réveil. Et on est centré sur l'œuvre de la croix. Et ensuite, le rôle des sacrificateurs dans ce parvis, eh bien, je l'avais dit ce matin, c'est de bénir. Leur ministère, c'est la bénédiction. Le ministère des sacrificateurs de la Nouvelle Alliance, c'est encore et toujours la bénédiction. Bénissez et ne maudissez pas. Accueillez et bénissez. Et la première manière de bénir et d'être dans une position de sacrificateur, c'est le pardon. L'atmosphère du ciel sur la terre, c'est une atmosphère de pardon, de grâce. Et c'est quoi cette atmosphère? Les gens ne se sentent pas jugés, ils se sentent acceptés comme ils sont, ils se sentent aimés pour qui ils sont, quel que soit leur passé, quelles que soient leurs histoires, quelle que soit leur manière de s'habiller, quel que soit leur tatouage, quel que soit... Bref, ils sont accueillis. Et ils sont pardonnés d'avance. Vous vous rappelez la parabole du fils prodigue ? Il n'a pas attendu le père que le fils lui demande pardon pour le pardonner. Il l'avait pardonné depuis le début. Quand il est parti, il était déjà pardonné. Donc quand il revient, il se fait accueillir et prendre dans les bras. L'accueil des fils prodigues, c'est un rôle de sacrificateur. Jésus a dit à ses disciples, « Ceux à qui vous pardonnerez leurs péchés, leur sera pardonné. » Il a donné une autorité de pardon à ses disciples. Il faut l'utiliser. On l'utilise dans la relation d'aide souvent. C'est-à-dire que les personnes ont besoin d'entendre quelqu'un les pardonner. Et on a l'autorité de le faire spirituellement. Alors ce n'est pas le confessionnal automatique, hein. Dieu nous pardonne directement. Mais parfois, il faut prononcer une parole de pardon pour libérer des situations. Vous savez que le pardon est une position d'autorité. Celui qui pardonne exerce l'autorité du roi. Le meilleur exemple de cela, on l'a dans notre histoire de France, histoire récente. À l'époque où il y avait la peine de mort, donc c'est assez récent puisque ça date d'avant 81, il y avait la peine de mort en France, hein, et c'est pas si vieux que ça, on coupait la tête aux gens. Les jeunes, vous vous rappelez, non, vous n'étiez pas nés. Il y avait une guillotine à Paris et on coupait la tête. Foup. Étonnant, 81. Et bien à cette époque-là, il y avait des coupables qui étaient condamnés à mort et ils avaient fait tous les recours possibles de la justice et la justice avait confirmé, après appel et tout, condamné à mort. Et bien le dossier de la personne, avant que le jugement se fasse, passait à l'Élysée, sur le bureau du président de la République. Et le président de la République, seul, avec le dossier, avait le droit de décider de faire grâce ou pas. C'est incroyable. C'est-à-dire qu'après la justice, après que la justice ait rendu son verdict, il y avait une autorité plus grande qui avait le droit de faire grâce. On a carrément, dans notre structure à l'époque de France, on a carrément la révélation de l'autorité de Dieu pour faire grâce. L'autorité du pardon. Ça devait être compliqué pour le gars. Cas de conscience. La justice est une autorité très forte. Et il faut prier pour l'indépendance de la justice. Très important, l'indépendance de la justice. C'est un autre sujet, mais bon, bref. C'est une autorité très forte, la justice. Elle rend des verdicts. Elle envoie les gens en prison. Et ce n'est pas les hommes qui ont inventé ça. C'est Dieu qui fonctionne comme ça. La justice et l'équité sont la base de ton trône. Donc, tout ce que Dieu décide est fondé sur la justice. Et lorsqu'il punit le pécheur, c'est toujours juste. Et la punition de Dieu envers le pécheur est terrible. Ça s'appelle le châtiment éternel. Donc lorsque la justice est passée, c'est juste. Si on accomplit la sentence, c'est juste. Et on ne peut rien dire. Et personne n'a le droit de rien dire de plus. Parce que la justice de Dieu est toujours juste. Seulement le verset qui nous dit « La justice et l'équité sont la base de mon trône » continue en disant « Mais la bonté et la grâce sont devant ta face. » Ah, j'aime ce verset. Je n'ai pas la référence, mais vous le trouverez. C'est-à-dire que toutes les décisions de Dieu sont justes, même quand il punit le coupable. Mais devant lui, il y a quelque chose qui lui renvoie la grâce. C'est-à-dire quelque chose qui triomphe sur le jugement. La miséricorde triomphe du jugement. Comment est-ce que Dieu a pu faire ça? Il a envoyé son fils mourir à notre place. Et devant lui, il y a le sang de Jésus qui plaide. Et devant lui, il y a les intercesseurs qui intercèdent. Et qui disent « Rappelle-toi !» Oui, c'est juste de les punir, mais rappelle-toi le sang qui a été versé à la croix. Le pardon est une position d'autorité supérieure à la justice. Tu veux ressembler à Christ ? Tu seras blessé. Vous allez me dire, mais attends, de quoi tu parles ? Tu veux ressembler à Christ ? Tu vas être blessé. Tu vas me dire, mais j'ai été suffisamment blessé dans le passé. Ouais, mais ça continue encore après. Mince. Pourquoi est-ce que je vais être blessé ? Pour faire grâce. Pour pardonner. J'aime bien dire ça parce que ça énerve tout le monde. C'est tellement compliqué de pardonner quand on a été blessé. On est bien d'accord. Hein, ceux qui font sozo connaissent le problème. Mais c'est la réalité de tous les hommes. Qui n'a pas été blessé par quelqu'un ici ? Et plus la personne qui te blesse est importante dans ta vie, plus c'est compliqué de faire grâce. On est bien d'accord, c'est facile de pardonner les Chinois hein, qui sont là-bas. Seigneur, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais pardonner celui avec qui tu vis tous les jours, c'est plus compliqué. Mais lorsque tu le fais, tu es dans une position de bénédiction et d'autorité. Et tu es en train de le libérer. Le pardon est une puissance qui libère. Tu es en train de prendre la position royale. Et nous sommes un sacerdoce royal. Et je termine avec ça. Nous sommes un sacerdoce d'autorité pour libérer les captifs. Nous sommes un sacerdoce d'autorité pour guérir les malades. Nous sommes un sacerdoce d'autorité pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres et pour ressusciter ceux qui sont dans la mort spirituelle et aussi, comme signe du royaume, ceux qui sont dans la mort physique. Les signes et les prodiges sont des manifestations de la grâce de Dieu pour pointer le doigt vers quelque chose de plus grand encore. Quand Jésus a guéri un malade qui avait, je ne sais plus, il était... Je ne sais plus ce qu'il avait, celui-là. Enfin bref, il l'a guéri. Et ensuite, il lui a dit, non, c'est dans l'autre sens. Il a dit à un malade, tes péchés sont pardonnés. Et les pharisiens ont commencé à lui dire, mais attends, c'est qui celui-là qui croit avoir le pouvoir de pardonner les péchés, quoi ? Il se prend pour Dieu ou quoi ? Et il a dit ensuite, Jésus, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, prends ton lit et marche. Et le gars, il a pris son lit et il est parti en courant. Waouh ! Qu'est-ce qu'il a dit Jésus à ce moment-là ? Il a dit, mais guérir un malade, c'est rien. C'est facile pour moi. Mais le pouvoir que je reçois de mon Père, c'est celui de pardonner les péchés. Et ça, ça ne va pas être si simple pour moi. Il va falloir que j'aille jusque sur la croix. Et ça, nous, on n'a pas besoin de le faire. Et c'est pour ça que Jésus dit, puisque vous avez reçu un si grand pardon, alors pardonnez ceux qui vous ont offensé et guérissez les malades en signe que vous avez une grande autorité spirituelle. Et je pense que la dimension de la guérison physique va grandir dans l'Église au fur et à mesure que nous allons grandir dans la dimension du pardon et de la réconciliation. Parce que c'est ça qui importe plus le Seigneur. Il veut libérer sa puissance de guérison pour les malades, c'est sûr. Et il va le faire. Mais nous, il faut qu'on grandisse spirituellement et qu'on rentre dans notre autorité. Nous sommes un groupe de prêtres royaux, un sacerdoce royal, et le Seigneur nous envoie dans la moisson. Et il nous demande de le servir aux trois autels. Adorateur, à l'autel des parfums, intercesseur devant le propitiatoire, et ambassadeur dans le parvis, à l'autel des reins, porteur de la croix, bénissant et accueillant les gens qui sont autour de nous. Je vais m'arrêter là et on va juste prier quelques instants. Alléluia. Seigneur de gloire. Le ciel est ton trône et la terre est ton marchepied. Seigneur, emmène-nous quelques instants devant ton trône. C'est là que nous voulons nous tenir ce soir pour te contempler, toi le grand Dieu. Ton œuvre est tellement belle, Seigneur. Ce que tu as accompli en Christ est tellement beau, tellement parfait. Nos cœurs débordent de reconnaissance pour qui tu es, pour ce que tu as fait. L'œuvre que tu as accomplie, Seigneur Jésus, est parfaite. Tu as dépouillé les dominations, les autorités. Tu les as livrées publiquement en spectacle. Et tu as été chercher le malheureux, l'indigent, le pécheur, pour le faire asseoir avec toi sur ton trône. Et tu nous as revêtus des vêtements sacerdotaux. Tu nous as redonné une dignité qui est bien au-delà de tout ce que nous avions perdu. Tu nous introduis dans ta présence. Tu nous permets de collaborer avec toi, de connaître ton cœur, d'écouter et d'entendre ta voix. Tu fais de nous des témoins qui annoncent les merveilles de Dieu dans le monde, des porte-paroles de ta grâce, de ton salut, de ton pardon. Tu nous envoies, Seigneur, tu nous envoies dans la moisson. Seigneur, je voudrais prier pour mes frères et sœurs ici, de l'église Josué. Merci Seigneur pour ce qu'ils sont, pour tout le travail qu'ils accomplissent. Merci pour la grâce qui est palpable au milieu d'eux, pour ta présence. Et Seigneur, je voudrais prier pour qu'ils puissent encore grandir et grandir dans leur appel de sacrificateurs ensemble, dans toutes les dimensions de la sacrificature. Et toutes celles que dont je n'ai pas parlé, mais qui viennent compléter. Et Seigneur, je prie pour qu'il y ait une transformation. Transformation dans la capacité à manifester le royaume de Dieu. À connaître le cœur de Dieu. Et je voudrais juste faire un appel ce soir que j'ai sur le cœur depuis tout à l'heure. C'est tout simple, c'est ceux qui ont été interpellés lorsque j'ai parlé de se décentrer de ses propres problèmes pour pouvoir participer à l'intercession de Jésus et commencer à s'occuper des fardeaux du Seigneur. Si ça vous a interpellé, si vous avez juste senti que là il y avait vraiment quelque chose qui doit se réaligner dans votre vie, j'aimerais que vous le manifestiez en venant pour qu'on prie avec vous. C'est pas pour avoir un temps de ministère pour vous, mais c'est pour que justement vous soyez décentré de ce que vous portez, de vos problèmes, si légitimes soient-ils, pour pouvoir entrer dans la sacrificature qui est la vôtre. Si jamais certains sont convaincus de cela, je vous invite simplement à vous approcher.